Alors aujourd'hui, on se fait des films. On se fait des films de Bernadette Lafont. Bernadette, c'était la gourmandise, c'était la nouvelle vague. C'était une belle fille comme elle. Elle aimait la nature, elle aimait les hommes. Donc forcément, nous, qu'est-ce qu'on l'aime ?
Guillemette Audicino. On se fait des films sur France Inter.
Bernadette Lafont est morte à 74 ans à Nîmes, un jour d'été d'il y a 5 ans. Elle est partie pour de bon alors que les gens de cinéma, eux, étaient juste partis en vacances. Ils ne jugèrent pas utile d'interrompre leur repos estival pour aller à l'enterrement de cette actrice aux 120 films à Saint-André-de-Valborgne, dans le Gard. Seul cinéaste à faire le déplacement, Jean-Pierre Mocky, qu'il avait dirigé entre autres dans Les Saisons du Plaisir, et Lucien Jean-Baptiste, qu'il avait dirigé lui en 2009 dans Première Étoile. Comme le balança Mocky, pas content, décidément, il ne fait pas bon mourir en juillet. Bernadette n'avait pas l'accent du Sud, mais sa gouaille donna du corps à la nouvelle vague. La voix de Bernadette Lafont. Un son à part, rond et chaud comme une gitane, même si elle fumait des blondes et n'aidait pas du style à arrêter. Les précautions, c'est pour ceux qui ne savent pas résister au malheur. Bernadette savait lui résister et le prouva, parlant sans détour mais avec pudeur de la mort tragique de Pauline, sa fille, en 1988. Cette mort idiote qui transforma certains médias en vautours. Cette voix qui parlait vrai, Bernadette l'offre en copine, dans les années 50, aux jeunes gens des cahiers du cinéma. Ces cinéastes débutants voulaient filmer la vraie vie, et on ne faisait pas mieux que Bernadette, comme vraie nana. Le cinéma, cette adolescente nîmoise, de toute manière, en rêvait.
Vers les 14 ans, là, donc, j'ai commencé à aller au cinéma avec mon père. On allait au cinéma une fois par semaine à Nîmes. Et ça, c'était assez formidable parce que on pouvait voir une semaine Orphée de Cocteau. La semaine d'après, nous irons à Paris avec le Réventura son orchestre. Et tout nous plaisait. Mais c'était pas pour les mêmes raisons, mais on aimait tout ça. Et il y avait Bonjour Tristesse qui était sorti, Sagan, j'adore. D'ailleurs, quand je vois des photos de moi à cette époque-là, je lui ressemble un peu, ce côté un peu, voilà. Et il y avait des concours dans Elle pour Bonjour Tristesse. Envoyez vos photos. Pour Le Blé en Herbe aussi avant, oui. Café Nicole Berger, j'adorais. Et donc, mon père qui faisait des photos d'amateurs comme tout le monde, c'est-à-dire en noir et blanc, où le personnage était grand comme ça, dans une énorme plaine, tu vois. Et j'envoyais en cachette à Elle, ou à Matt, je sais pas, ma photo. J'aurais jamais osé le dire, pour Bonjour Tristesse ou Le Blé en Herbe. Et en plus, il y avait à cette époque-là, on parlait beaucoup de Marina Vladi, qui avait 14 ans, qui avait exactement mon âge, qui avait fait kayak avant le déluge, qui était vedette, qui était partie en Italie.
Marina Vladi, c'était les dernières vacances.
Oui, voilà.
De l'Edart, oui.
Donc elle avait mon âge, j'avais 14 ans, elle était vedette, elle était de... Pourquoi pas moi ?
C'est la voix de Jean Douché qu'on entend dans cette interview pour France Culture, à voix nue. Alors cet éclectisme de jeune spectatrice, quand elle allait au cinéma avec papa, explique sans doute son éclectisme plus tard dans le choix de ses rôles. L'année de son bac, une troupe de théâtre débarque à Nîmes. Parmi les comédiens, il y a Stéphane Audran, Jean-Louis Trintignant, Maurice Pialat comme figurant et Gérard Blin. Le jeune homme tombe raide, dingue, amoureux de cette brunette qui fait de la danse depuis 2 ans et traîne exprès à la terrasse du café le plus en vue sur la place de Nîmes. Elle a 18 ans, il l'épouse, mais il ne voit pas d'un bon œil qu'elle fasse du cinéma. On le comprend, un tempérament pareil, ça se surveille. Quand François Truffaut écrit une lettre de félicitations à Gérard Blin pour son interprétation dans « Voici le temps des assassins » de Julien Duvivier, il lui demande de tourner dans son deuxième court-métrage, « Les Mistons », mais si possible avec sa jeune épouse comme héroïne. Gérard Blin est coincé. Bernadette dit oui à Truffaut.
La sœur de Jouve était trop belle. Nous ne le supportions pas. Elle roulait toujours jupe flottante et assurément sans jupon. Bernadette était pour nous la découverte prestigieuse de tant de rêves obscurs et de nos imaginations cachées. Elle était notre éveil et elle ouvrait en nous les sources d'une sensualité lumineuse. Les mouvements d'un cœur virginal relèvent d'une logique propre à l'enfance. N'ayant pas l'âge d'aimer Bernadette, nous décidâmes de la haïr et de tourmenter ses amours.
Tourné à Nîmes, le film met en scène un jeune couple amoureux, poursuivi par une bande de galopins qui commentent la beauté de Bernadette. L'ouverture du film est une véritable ode à la beauté de Lafont, qui pédale, pieds nus sur son vélo, cheveux bruns coupés courts et jupe au vent, découvrant ses cuisses nues. Avec une chair telle que celle de Bernadette, les jeunes loups de la nouvelle vague vont se régaler. Elle devient leur égérie. D'abord, il y a le beau Serge de Claude Chabrol, avec Gérard Blin et Jean-Claude Brialy, et qu'on peut considérer comme le coup d'envoi de la nouvelle vague. Dans le rôle de Marie, la vamp du village, elle a tout de même une petite pointe d'accent.
À quel âge as-tu commencé ?
Ça fait 2 ans.
Avec qui ?
Ça peut te faire.
Ben je sais avec qui, alors dis-le.
Bah alors, si tu le sais...
Avec Serge. C'est pas Serge ? Je m'en doutais. Sa femme le sait ?
Oh, ça a été juste une fois.
Je te demande, elle l'a su ?
Oui, lui a dit.
Comment ça ?
Un jour qu'il était sous en colère, il lui a dit. Tu dois peut-être partir maintenant. Glomo va rentrer déjeuner.
T'as peur de lui, hein ? Pourquoi l'appelles-tu Glomo ?
Je sais pas, moi, Glomo ou papa.
Dans le temps, on disait dans le pays que tu n'étais pas ton père.
Non, il n'est pas mon père. Tout le monde le sait au bourg, je crois, sauf lui. Tu viens de descendre donc.
Pourquoi tu vis avec lui ?
Faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe un peu.
Tu sais qui est ton père ?
Maman a jamais voulu me le dire, même quand elle était mourante. Serge dit qu'elle ne le savait pas.
C'est le premier film de Chabrol, mais il a déjà une idée bien précise de ce qu'il veut, Chacha.
C'était le premier film donc vraiment délibérément non commercial, quoi. En réalité, c'était un peu plus compliqué que ça, parce que dans ma tête, il était parfaitement commercial. J'avais fait dans un esprit assez mercantile. Je voulais qu'il ait... Il y avait à ce moment-là, il y avait la prime à la qualité. Et je savais qu'il y aurait toujours des difficultés de sortie pour ce film, de toute façon, puisque je n'avais pas de distributeur au départ. Alors j'avais visé cette prime à la qualité. Et j'ai eu cette prime à la qualité qui m'a permis d'entamer le deuxième film.
La même année, elle continue donc avec Chabrol et tourne déjà avec l'autre future égérie, masculine cette fois, de cette vague qui va tout emporter sur son passage. Un Jean-Paul Belmondo très gourmand. Écoutez.
Julie ! Julie, je vous ai dit que j'avais faim. Où est mon petit déjeuner ?
Pas eu le temps, mais autre chose à faire.
Bon, alors écoutez, c'est le moment de vous y mettre. Je veux des œufs à la coque, des biscottes, de la confiture, du fromage de chèvre, une aile de poulet froid.
Dis donc, vous avez rien mangé hier ?
Non, je me réservais pour aujourd'hui. Bon, alors écoutez, assez de paroles inutiles, maintenant je veux des œufs.
Je vous signale que j'ai plus de poulet.
Oh, ne me racontez pas d'histoire, je connais la maison. Et pas d'économie de mauvais goût. Ne regardez pas la quantité.
Oh, vous alors ?
Je vous attends sous la vergole. Ah ! Apportez-moi aussi un pichet de rosé.
De cette époque, son film préféré reste tout de même Les Bonnes Femmes, encore de Chabrol. Où Chacha filme avec un regard acerbe l'histoire de quatre vendeuses d'un magasin d'articles ménagers qui s'ennuient en rêvant à l'amour. Le film, jugé anti-féministe à sa sortie, alors que c'est tout le contraire, fait un sacré scandale. Mais l'équipe s'en fout, car ils se sont bien amusés.
C'était survolté l'ambiance, c'était survolté parce que Claude était en train de vraiment tomber très amoureux de Stéphane, donc il était heureux. Il y avait aussi ces producteurs qui étaient les Hakim, qui étaient effrayants. Là, il disait à Clotilde Joanneau, mais vous êtes trop maigre, mais regardez Bernadette Lafont, regardez Stéphane Audran, ça c'est des femmes, vous êtes... Ils étaient très grossiers. Et alors il y avait tout un tas de gens comme ça, tellement différents, qui étaient sur ce tournage. Et puis on tournait beaucoup la nuit, et je me souviens, il y avait une très belle auto qui était stationnée, qui était une Samson rouge décapotable qui me faisait penser à celle de Gérard. Et je disais à Claude, regarde cette voiture, qu'est-ce qu'elle est belle, j'en voudrais une voiture comme ça. Moi je conduisais pas en plus, hein. Ah, mais tu veux cette voiture ? Mais je te l'achète. Et alors, il avait fait un chèque sur le capot, il m'avait acheté cette voiture. On faisait des interviews incroyables. Quel est votre parfum préféré ? L'odeur de la fouine, monsieur. Stéphane avait inventé un truc pour faire rire Claude. Elle était sur un fauteuil comme ça. Et quand les journalistes venaient, elle tapait sur la braguette, parce que comme faisait Mae West, en disant « Bonjour, comment ça va ?» C'était très provocant. Ça amusait Claude... Et allez, on y... Et Paul, alors, c'était des assauts de conneries, quoi. Même à Romère, on faisait des blagues douteuses aussi au téléphone. Et Romère, je crois, son derrière, son le Munster. Le niveau était quand même... L'ambiance était très survoltée.
Dans les années 60, elle passe de film en film, plus d'une vingtaine, avec entre autres... Les Godelureaux de Chabrol, un film que Bernadette aimait particulièrement, où elle joue Ambroisine, une jolie jeune femme un peu simple, face à Jean-Claude Brialy. Mais elle est aussi au casting hallucinant de cette délicieuse comédie à sketch d'Edouard Molinaro, La Chasse à l'Homme, où défilent Jean-Claude Brialy, Marie Laforêt, Claude Rich, Catherine Deneuve, Micheline Prel, Bernard Blier, Michel Serrault et Belmondo, qui ne la trouve pas assez rentable.
Mon numéro 1, c'était Flora.
Bonne mentalité, mais pas d'ambition.
Avant de se défendre, elle avait erré dans des boulots honnêtes. Elle y avait attrapé des habitudes de feignasse. La journée continue. J'arrivais pas à lui mettre ça dans le citron.
Bonsoir, monsieur Fernand.
Salut. Alors ? Nom de Dieu, de nom de Dieu, quand je pense que je te fais confiance.
Oh, mais écoute,
mais qu'est-ce que tu veux que j'écoute ? On devrait jamais améliorer le sort des gens. J'aurais dû te laisser végéter dans ton prise unique. Non, quand je pense aux mains que je me donne. La petite boutique pas chère. Le fonds de commerce pas trop piégé. Tu crois que ça se trouve facilement? Quand t'arrives le soir, je suis mort. Je prends sur mes heures de repos pour venir te voir. Moralité, ça paye même pas l'essence.
Oh, tu es méchant, Fernand.
Non, je suis réaliste. Je suis réaliste.
Nous sommes ce Fernand.
Soir, Ingrid. Et si ça continue? Déplacement, tu t'en occuperas toute seule. Ton carbure, j'y toucherai plus.
Oh, Fernand, t'as pas le droit.
Plus une thune. Je te laisserai tout.
tu la connaisses un peu, l'incertitude. Au lieu d'avoir ta petite épicerie, tu finiras chez les Balouba.
Écoute, Fernand, si tu permets, je vais encore aller me promener un peu. Pour améliorer, hein?
Toi alors, je pense que tu m'as fait. Je te passe tout.
Les dialogues, comme vous avez pu le deviner, sont d'Audiard. Avec des perles du genre « On ne peut pas être amoureux de papa, maman a essayé » ou « Je vous laisse le choix entre le mariage et les menottes ». Bah, j'avoue que la différence m'échappe. En fait, dans les années 60, le cinéma est déjà passé au deuxième plan. Car pour Bernadette, la vie n'attend pas. Elle a quitté Gérard Blin pour épouser le sculpteur hongrois Gyurka Medvesky. Oui, on prend du temps pour prononcer bien ce genre de mots. Elle est folle de lui et s'installe loin de Paris, au fin fond de l'Oise, quitte à disparaître de l'affiche. À 24 ans, la voilà déjà mère de 3 enfants avec lui, Pauline, Elisabeth et David.
Déjà oublié comment ne plus t'aimer. Comment stopper la machine infernale. J'ai déjà oublié comment ne plus t'embrasser. Elle m'hypnotise, ma déesse adorée. Chérie, chérie, laisse-moi te réchauffer avec les mots troublés de ton chenapan violent. Chérie, chérie, laisse-moi m'aventurer dans la beauté cachée de ma reine de cœur. J'ai déverrouillé le cadenas givré. J'ai guetté ton arrivée. De l'autre côté de ce pays éphémère, j'ai dérobé des baisers de lumière. Chérie, chérie, laisse-moi te révolutionner en orbite tout autour de moi. Chérie, chérie, personne ne décapite, même sous la terreur, ma reine de cœur. Chérie, chérie.
Guillemette Audicino. On se fait des films sur France Inter.
Bernadette revient donc vraiment au cinéma en 69, année érotique, et c'est vraiment le cas de le dire pour Bernadette, qui incendie le cinéma avec La fiancée du pirate de Nelly Kaplan. Cette farce féministe post-68arde est acclamée au Festival de Venise et fait l'effet d'une détonation en France. Elle y incarne Marie, boniche et esclave d'un village, mais qui se rebelle. Sorcière des temps modernes, elle fait brûler de désir ses inquisiteurs au lieu d'être brûlée.
Moi aussi j'ai une montre. Si je te la donne, je pourrais venir te voir combien de fois.
Mais j'en veux pas de ta montre. Elle marche pas et tu le sais. D'ailleurs, c'est de la camelote. Je veux pas de toi non plus, Julien, tu sais. Écoute, va-t'en. Fiche-moi le camp. Essaie ailleurs n'importe quoi. Mais cesse de te louer d'une ferme à l'autre comme une bête de somme. Comment t'as pu supporter hier soir qu'on te traite pire qu'un chien? Sans même réagir. Sans même demander ce qu'on te doit.
Oui, toi, qu'est-ce que tu te crois, salope? Tout est déjà passé dessus, mais ça te suffit pas, hein? Tu veux tout avoir, tout dominer, ton temps a raison. T'es pire que du poison, du chien-dent, voilà ce que t'es. Du chien-dent qui se fout partout et qui dévore tout, hein? Oh, tu ne m'en fous plus, hein? J'en ai marre maintenant! Parce que du chien-dent, je vais te tuer! Je vais te tuer!
Tu n'oses t'attaquer qu'à plus faible que toi, tu es moins que rien, Julien. Allez, piche le camp! Piche le camp! Tu me dégoûtes!
Bernadette avait lu et adoré un roman de Nelly Kaplan, écrit sous le pseudonyme de Bélène. Quand elle apprit que Nelly Kaplan préparait son premier film, elle fonça pour passer des essais. Elle avait bien senti, en bonne instinctive, que ce rôle allait relancer sa carrière, trop papillonneuse pour paraître sérieuse. L'année 71 est à l'image encore de son sens de l'aventure, qu'elle soit poétique ou très avant-gardiste. Elle tourne L'amour c'est gai, l'amour c'est triste, de Jean-Daniel Paulet, un mélange parfait de la nonchalance de la nouvelle vague et du populisme gouailleur des années 30. Elle y incarne encore une Marie, soi-disant cartomancienne, mais qui reçoit des hommes toute la journée dans sa chambre, aux côtés de Claude Melki, Chantal Goya et Jean-Pierre Marielle. Et puis surtout, elle est Sarah, dans Out One, de Jacques Rivette, aux côtés de Jean-Pierre Léo, Juliette Berthaud, Françoise Fabian et Michael Onsdahl. Le film monstre de la nouvelle vague, par sa durée hors de toutes les normes, 12h40, et par son principe absolu d'improvisation. Pour son chef opérateur, le grand Pierre-William Glenn, ce projet était unique, jamais fait avant, ne sera jamais fait après. Et cela ne nous étonne pas une minute que l'aventurière Bernadette soit dans ce film en liberté totale. L'un des grands moments du film, 10 minutes de silence entre elle et Jean-Pierre Léo. Mais bon, à la radio, difficile d'apprécier évidemment. Mais nous avons Jacques Rivette qui en parle.
C'est après la résurrection, juste après la résurrection du Christ. Une des saintes femmes, je ne sais plus laquelle, je ne sais plus si c'est Madeleine ou Marguerite ou une autre, qui voit le Christ ressuscité, qui va vers lui et lui dit « Non, limite en guérite, ne me touche pas. » Et c'est un thème, et il s'éloigne, sans rien lui dire de plus. Et c'est le thème donc d'un certain nombre de tableaux sur justement ce rapport approche et distance en même temps entre le personnage masculin et la femme qui va vers lui, Noli Metangere. J'avais trouvé que ça correspondait en voyant, c'est un titre après coup, pendant le montage, en voyant tout le matériel, tout ce. Où il y a vraiment, c'est un film où les parcours des personnages les uns par rapport aux autres, ils s'approchent les uns des autres, mais ils ne se touchent jamais vraiment. Et dès qu'ils s'approchent, hop, quelque chose, comme une électricité contraire qui fait qu'ils se divergent aussitôt. Et puis qu'il y avait plein de choses, plein de moments dans le film où en effet, il y a des mouvements vers l'autre, mais toujours interrompus. Enfin, toujours, presque toujours interrompus, avec refus, recul. Non limite en guerre. Voilà, bon.
Truffaut avait vu La fiancée du pirate et lui avait fait ce compliment « Renoir vous aurait adoré ». Du coup, il se met à écrire pour elle Une belle fille comme moi, où aucun homme, aucun, ne résiste à Bernadette. Ni le journaliste joué par André Dussolier, ni le fou de Formule 1 interprété par Guy Marchand, ni le dératiseur incarné par Charles Denner, un des acteurs qu'elle admira le plus.
Oh Camille, je suis triste de vous voir si malheureuse, mais en même temps je suis contente de vous revoir. Dites-moi, qui a fait pleurer ses beaux yeux? J'irai lui dire deux mots. Et pourquoi vous n'êtes pas venu me voir plus tôt? Vous n'aviez plus confiance en moi?
Oh si, c'est pas ça, mais...
quelqu'un vous empêcher de venir me voir?
Bah justement, oui. C'est rapport à mon frère Clovis qui est malade. Bah depuis qu'il est sorti de l'hôpital, je sais pas ce qu'il lui a pris, mais il m'empêche de voir personne et il est comme fou de jalousie, tiens.
Jalousie? Votre frère? Aurait-il des pensées incestueuses?
Oh bah pas moi, mais lui, ce serait bien son idée.
L'inceste?
Oh puis c'est pas tout, hein. Faut que je vous parle aussi de l'avocat pourri qui devait soi-disant nous aider, mon frère et moi.
Oui, et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il vous a négligé?
C'est bien pire que ça.
Il vous a tourmenté? Vous n'allez pas me dire qu'il a osé vous toucher?
Eh ben, vous, monsieur Arthur, je dois vous dire toute la vérité. Eh ben oui, il les a mis, ses sales pattes sur moi.
Il a fait ça, cette vermine astostopote. Il copote. Alors, il ne vaut pas plus cher que les sales bestioles que j'extermine tous les jours.
C'est vrai ce que vous dites ça, monsieur Arthur? Vous êtes mon ami?
Moi, je suis plus que votre ami.
Alors, vous allez me l'exterminer, hein? Ce sale avocat pourri, comme un rat humain qu'il est!
Non. Mademoiselle Camille, dites-moi que je me trompe. Avec votre figure d'ange, vous n'allez pas me demander de tuer un homme? Les vies humaines sont des petites lumières que Dieu a allumées. Lui seul a le pouvoir de les éteindre. Voilà ce que je vais faire pour vous.
Oh, vous pouvez le garder, votre sale argent.
Mais ça n'est pas du sale argent. Avec ça, vous trouverez un avocat honnête et qui vous défendra vraiment. Je vous en prie, prenez. Oh, vous êtes déçus. Je vois, vous êtes déçus. Mais quoi? Écoutez, je finis ma préparation, je ferme la maison et je vous ramène en
voiture.
Mais pas le temps,
je dois partir parce que je dois acheter des médicaments pour mon frère malade.
Je vous raccompagne.
Non, je dois partir.
Mais alors, vous ne voulez plus me voir?
Je dois m'en aller.
Elle termine le tournage d'une belle fille comme moi un mercredi. Dès le lendemain, elle commence celui de La Maman et la Putain de Jean Eustache, qui ne veut tourner qu'avec Jean-Pierre Léo, Françoise Lebrun et elle, car le plus beau film qu'il avait vu, celui qui avait déclenché son envie de faire du cinéma, était Les Bonnes Femmes. Le tournage est dur, très peu d'argent, le plus souvent une seule prise avec des textes fleuves.
Puis-je savoir quelles sont vos intentions? Que comptez-vous faire?
J'aimerais voir Philippe de temps en temps, c'est tout.
Et vous pensez que ça ne changera rien?
Enfin, écoutez, rien n'est changé. Je vous aime, je reste avec vous, je vis avec vous.
Et vous irez baiser avec lui de temps en temps?
Écoutez, je n'ai pas baisé avec lui.
Ah oui, je sais, c'est ce que vous m'avez dit. Mais maintenant, je suppose que vous n'allez pas passer votre temps à vous regarder dans le blanc des yeux.
Je n'ai pas envie de baiser avec lui.
C'est une envie qui peut venir très vite. Quand la femme qu'on aime baise avec un ami ou quelqu'un qu'on aime bien, c'est un peu dur. Mais on arrive à comprendre. Mais quand elle baise ou se branche à la tête, comme vous dites, avec quelqu'un qui est tout ce qu'on déteste, elle vous met sur le même plan que lui, comme si on était pareil.
Enfin, écoutez, vous ne le connaissez pas. Vous faites de lui une idée complètement fausse.
De toute façon, tout ce que je peux dire là-dedans, vous ferez ce que vous avez à faire. Moi, ce soir, je suis occupé.
Vous sortez avec l'infirmière?
Oui, avec l'infirmière.
Et vous allez manger avec elle?
Manger ou boire un verre, je ne sais pas.
Vous arrivez à trouver du fric pour amener une fille au restaurant, mais quand il s'agit de m'y amener moi, vous n'y arrivez plus.
Mais faites-vous inviter par votre nouveau Jules?
Je n'ai pas de nouveau Jules.
Par votre prochain Jules, alors?
Vous dites vraiment des conneries de temps en temps.
Repassez-moi la bouteille.
Voilà. Ceci dit, je comprends très bien que vous ayez envie de séduire.
L'important n'est pas de séduire une femme, mais de la connaître.
Oui, mais vous refusez de comprendre que moi aussi je peux m'intéresser à quelqu'un.
Moi, je ne suis pas branché dans la tête, dans les hauteurs, dans les hautes sphères. Je fais plutôt dans l'ordinaire, le terre-à-terre, le banal. Et vous savez très bien que je ne parle pas de cul. Je ne pense pas du tout à la baiser. Et même si j'ai pensé, il faut être deux pour ça.
Pour ça, mon cher, je vous fais absolument confiance.
Vous êtes gentil.
De ce chef-d'œuvre sur le ménage à trois impossible, de ce film très engagé à sa manière, elle disait dans Le Monde, en 1985, ça a été une expérience très douloureuse, en même temps qu'un film magnifique. J'ai voulu à un moment arrêter le tournage tellement cette histoire était éprouvante. Je jouais quand même le rôle de la copine du moment de Jean Eustache et je sentais qu'il y avait une telle souffrance là-dessous. Mais Jean ne voulait rien entendre. Il menaçait d'arrêter le film si je partais. Au bout du compte, La Maman et la Putain a bien été un film mortel, car la petite amie de Jean s'est suicidée après la première projection. Le film illustre, comme aucun autre, cette période des utopies qui se sont révélées mortelles. J'ai vu beaucoup trop d'amis rester sur le carreau à cette époque. Et en même temps, comment renier l'histoire qui est celle de ma génération? C'est sans doute parce qu'elle est, à chaque fois, de sa génération, que Bernadette aime autant plonger dans l'énergie des premiers films.
C'est le goût, c'est le goût de l'aventure, oui. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que dans un premier film, il y a toujours quelque chose qui, en fait, d'extraordinaire, que je pense on ne retrouve pas aussi fort après.
16-6, quatrième.
C'est pas où on va, etc. Mais en même temps, il y a sur la créativité comme ça, c'est bouillonnant. Enfin, c'est quelque chose de très jeune et de très frais. Et ça, moi, je dois dire que c'est ce que j'aime le plus. C'est ce que j'aime le plus, vraiment. C'est beaucoup plus, c'est ce qui est le plus excitant pour moi.
Il nous faut maintenant passer aux années 80 parce que Bernadette la Gourmande a tellement tourné. Et que dans les années 80, son copain Chabrol, avec lequel elle riait tellement, revient la chercher. Dans Inspecteur Lavardin, elle incarne un ancien amour de cet inspecteur aux méthodes peu catholiques et qui aime les œufs au plat avec une pointe de paprika.
Il faut que tu me parles de Raoul, sinon j'en sortirai jamais tout seul. Hein.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?
Raconte-moi votre vie, je sais pas moi. Oublie Jean, pense flic.
J'aimais Pierre. Raoul me dégoûtait.
Ben, qu'est-ce qui t'a pris de l'épouser ?
Je l'ai fait pour Claude et Véro. Pierre était pourri de dettes. Il aurait fallu vendre la maison pour payer Raoul.
C'est ce qu'on appelle se rembourser en nature.
Uniquement sur les meubles, il ne m'a jamais touché. Quand il a vu qu'il ne m'aurait pas, il m'a raconté que l'acte de chair lui répugnait.
T'avais bien une petite vie à toi, quand même. Et Claude ?
Véronique et Claude, c'est tout ce qu'il me reste. Je les aime.
Dans Masque, elle est la gouvernante sagace de Philippe Noiret, un présentateur de télé gluant et monstrueux qui retient sa nièce en otage.
Roland Wolff.
Christian Le Gagneur.
Je ne m'appelle pas Roland Wolff.
Wolff est un pseudonyme.
Je suis venu ici pour savoir ce qui est arrivé à Madeleine.
Comment tu la connais ?
Souviens-toi de Madeleine.
Qui est-ce ?
Qu'est-ce qui vous en a parlé ?
Madeleine.
Madeleine ?
On dirait qu'il cherche quelque chose. Quelque chose de très précis, tu sais.
Et puis, Claude Miller, jeune héritier de la Nouvelle Vague, l'appelle forcément pour l'effronter. Elle y joue Léone, une Léone rugissante, mais tendre, avec la toute jeune Charlotte Gainsbourg, qui est fascinée par une pianiste surdouée de son âge.
Elle m'a proposé d'être son impresario. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'un impresario pendant le mois de juillet et qu'elle voulait que ce soit moi.
Ça sera bien loti, la Clara Bowman.
J'y tournerai les pages de ses partitions pendant son concert.
À mon avis, pour faire ça, il faudrait d'abord que tu apprennes à lire la musique.
Et c'est quand tu t'en vas ? Dimanche, après-demain, après son concert.
C'est ça, oui.
Ouais, parfaitement, elle donne son concert après-demain dimanche. Et puis à la fin, je vais la rejoindre et puis après... Bon voyage, messieurs, dames.
Et après, je te reverrai ?
Ben ça...
Mais tu vois pas qu'elle te fait marcher, cette grande seringue ? Tu pourrais pas lui parler d'autre chose, non ? Tu vois pas que tu lui fais de la peine ?
C'est vrai, tu peux en parler d'autre chose ?
De toute façon, elle peut pas s'en aller, parce qu'au mois d'août, elle va en vacances dans le Jura avec son père.
Mais je viens de te dire que la tournée de Clara, c'était au mois de juillet. Mais elle devient complètement sourde, hein, cette bonne femme à parole.
Je t'ai déjà dit d'arrêter avec ce marteau, Charlotte.
Avec ce rôle où elle est nature et philosophe, Bernadette gagne le César du meilleur second rôle féminin. Dommage que la cérémonie n'ait été créée qu'en 1976, du temps de la Nouvelle Vague. Oh là là, elle en aurait raflé des statuettes, Bernadette.
C'est Bernadette Lafont.
Eh bien, d'habitude au théâtre, c'est très dur de lever le torchon. Mais ce soir, je suis très contente de le lever avec le César.
Alors, lever le torchon, cela veut dire au théâtre, lever le rideau. Justement, ça tombe bien, puisque Bernadette a toujours aimé les auteurs. Elle répond donc à l'appel du théâtre.
Quoi ? Notre amour fou ne resterait qu'aux décembre. Moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour décembre. Tu me dis que tu ne vaux pas la corde pour te pendre, star blessé ou apprendre. dit en passant, j'ai beaucoup à apprendre. Si j'ai bien sûr de comprendre. Amour cruel, comme un duel. Choix des armes, au service des larmes, pensez-y, pensez-y, et qu'on soit que c'est un amour à la vie. Quoi de notre amour fait resterait que des cendres. Moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour descendre. Toi, tu préfères mourir que de te rendre. Va donc savoir, va comprendre.
Direct sur France Inter avec Bernadette Lafont, qui après tant de rôles pour Chabrol, Truffaut, Rivette et aussi peut-être des navets, vient d'obtenir un César grâce à L'effronté de Claude Miller et s'en va faire un tour au théâtre.
Guillemette Audicino. On se fait des films sur France Inter.
En 1981, elle crée La Tour de la Défense de Coppi, le dramaturge argentin, intellectuel et gay. Ce qui ne l'empêche pas de se régaler à jouer sur une scène de boulevard, Désirée, de Sacha Guitry, aux côtés de Jean-Claude Brialy. Elle sera aussi dirigée par son ami Michel Faux dans l'opérette Ciboulette de Reynaldo Hahn à l'Opéra Comique, un peu avant son décès, en 2012. Dans les années 80, au cinéma, à la manière de Michel Galabru, elle tourne des séries Z au titre qui annonce bien la couleur. Le Trouble Fesse, La Frisée au Lardon, Nous Maigrirons Ensemble, Le Roi des Cons. Ou encore, On n'est pas sorti de l'auberge de Max Pécasse. Mais elle avait une bonne raison, comme elle expliquait parfaitement dans son livre entretien avec Bernard Bastide, Bernadette Lafont, Une vie de cinéma. Je suis curieuse de toutes les formes d'expression. Je ne balise rien. Je me fous de passer de Claude Chabrol à Max Pécasse. Bien sûr, je ne vais pas vous dire que j'ai fait On n'est pas sorti de l'auberge avec Jean Lefebvre pour l'amour de l'art. Ça, c'est clair. Mais il m'arrive de tourner, de temps en temps, sans être payé. Alors il faut bien que je gagne ma vie. Et puis j'ai rencontré pas mal de gens qui ne voyaient pas mes films difficiles ou les trouvaient trop compliqués. Des gens avec qui je passe des moments fabuleux. Peut-être ceux-là n'ont-ils vu que le film de Max Pécasse parce qu'il passe souvent à la télé. Eh bien rien que pour ça, rien que pour eux, ça me fait plaisir. Ça me rend heureuse d'avoir tourné des films très différents et de savoir que des gens très différents y prennent plaisir. Je n'ai jamais aimé travailler pour une chapelle. Ce qui compte, c'est de provoquer le bonheur. Oh, Bernadette, mon Dieu que c'est bien. Certaines jeunes cinéastes, effectivement, voient en elles le bonheur incarné. Comme Marion Vernoux, en 1993, qui la veut avec Jean-Pierre Léo pour son premier film, Personne ne m'aime, car elle a été marquée par La maman et la putain. Bernadette y joue une quinca qui prend la route parce qu'elle a des regrets.
Tiens, attrape le Michelin, là. Ce serait peut-être pas mal de savoir où on va, non? Au fait, t'as pas eu des nouvelles de Marie, par hasard?
Fille?
Bah oui, Marie.
Quelle idée. La dernière fois, c'était à l'enterrement de maman.
Ah ben, on peut pas être partout. Vous avez qu'à payer le voyage.
J'ai rien dit.
Alors?
Alors, rien. Tu files tous les 36 du mois. Tu disparais dans la nature. Oh, du jour au lendemain.
Passons. Mais quand même, tu te rends compte. 7 ans. 7 ans. Sans savoir, sans se voir. Quand elle était petite, j'oubliais ses anniversaires. Enfin, pas toujours, mais c'est arrivé. Maintenant, j'en suis à compter ceux que j'ai ratés.
À force de curiosité et de liberté, il lui arrivait aussi d'accepter des petits films improbable sur le papier, mais dont elle faisait des succès, comme Paulette, de Jérôme Enrico, en 2012. Dans cette comédie, elle était crédible et tellement drôle, en mémé acariâtre, dileuse par nécessité, et qui en remontrait aux racailles de sa cité.
Écoutez, monsieur Vito, je sais que Jérémy et le petit Bougnoul vendent de la drogue dans la cité, je les ai vus l'autre soir. Mais je vous promets que je ne ferai pas d'histoire si vous me donnez du travail. J'ai même pas de quoi me payer à manger. J'ai travaillé toute ma vie, j'en ai marre.
J'ai vu à la Vito Victor Hugo à l'entrée de la cité.
Il doit y avoir une place de libre, puisque Jérémy s'est resserré. Et vous avez toute la marée chaussée aux fesses.
De quoi? Les keufs.
Mais qui va se méfier de moi?
Écoute,
Paulette.
Ouais. C'est la première fois qu'une petite veille vient me proposer de bosser pour moi. Au fond, c'est peut-être pas con. Je vais te mettre à l'essai. 90-10. C'est-à-dire 90 pour moi, puis 10 pour toi.
Allez, go.
Marché conclu, monsieur Vito.
Vieille dame indigne, après beauté libertaire. La trajectoire est parfaite. Et puis, il y eut le dernier film, Attila Marcel, de Sylvain Chaumet, où elle jouait avec Hélène Vincent, une paire de tantines surprotectrices qui gardent un secret.
1, 2, 3, 1, 2, 3.
Il est triste, ce gamin.
La 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 la.
Pourquoi tu parles pas? T'as une maladie?
Ses parents sont décédés quand il avait 2 ans. Tout ce que je sais, c'est qu'il était présent quand c'est arrivé.
Elle te regarde.
De tout là-haut.
Elle est là, ta mère. Dans les eaux troubles de ta mémoire.
Et avec quoi on les appâte, les souvenirs? Avec ça.
Un peu d'amour, un peu de miel.
Les souvenirs, ça aime ça, la musique.
C'est tout ce qu'il faut. On dirait qu'il va parler.
Bah alors, mon petit père, t'en as mis du temps. Tu l'as vu, ta mère?
Si tes tantes, elles te posent des questions, t'es au marché.
Mais qu'est-ce qui lui arrive?
Il y a quelques effets secondaires, mais l'un dans l'autre, ça vaut le voyage.
Oh, il ne s'est jamais comporté comme ça.
Mais qu'est-ce que tu fais? C'est l'heure de souper.
C'est pas la mort qui l'empêche de vivre, ce gamin. On tourne en rond. Si on fait rien, bah, il aura 2 ans toute sa vie.
Il n'a pas fait de santé, votre garçon.
Les mauvais souvenirs, faut les noyer sous des flots de petits bonheurs. C'est tout ce que je te souhaite. Et c'est à toi d'ouvrir le robinet.
Du soleil, du miel, des petits bonheurs. On dirait que cette bande-annonce parle de Bernadette. Celle que le romancier Hervé Guibert avait qualifiée de bardo nègre. Celle qui aimait lire des auteurs sans tabou et à la langue verte, comme Violette Leduc, Paul Léoto ou Charles Bukowski. Bernadette qui adorait cette réplique des Godelureau de Chabrol. Il ne faut pas m'aimer, ça m'encombre. Bernadette dont le nom rime autant avec midinette qu'avec suffragette. Bernadette qui jusqu'à la fin, dans son jardin Cévenol, arrosait fièrement la rose Bernadette Lafont, créée à son nom. Sur la notice de cette rose, on peut lire « Son parfum intense et sa couleur en font un rosier très attirant. C'est un rosier vigoureux et sûr. » Mais la plante préférée de Bernadette restait le buis. Normal, cette plante est verte en toute saison. Alors il me faut finir sur une Bernadette bien vivante et écouter ce discours merveilleux qu'elle fit un soir de 2003 à la cérémonie des Césars où, contrairement à son enterrement, toute la profession était là pour applaudir son César d'honneur et où sa gourmandise n'avait pas pris une ride.
Lorsque l'Académie des arts et techniques du cinéma m'a prévenu qu'elle avait décidé cette année de me remettre un César d'honneur, j'ai été très émue. J'ai pensé à mes petits-enfants, les garçons ici et puis les petites filles là-bas. Et puis, je me suis demandé comment j'allais faire pour aller au-delà, un peu au-delà du discours d'usage. Dans mon métier, on s'exprime à travers les mots des autres. Ah, les mots, je les adore. Je crois que je ne me lasserai jamais de jouer avec eux. Daniel Toscan du Plantier était un grand amateur de mots. Il s'en servait avec brio, intelligence, humour. Aussi, pour mettre en forme toutes ces émotions qui me bombardaient, j'ai demandé à Claude Bourgeix, un auteur que j'aime beaucoup, d'écrire un petit texte que je vais avoir le plaisir de vous dire. Mes chéris, je sais que votre éloignement de Paris, là-bas aux 500 diables, vous tient dans l'ignorance des bouillonnements médiatiques qui sont ici notre lot quotidien. Aussi, je suppose que vous n'avez pas encore été avertis de ce qui m'arrive. Figurez-vous, mes petits cœurs, qu'on le remet ce soir à votre grand-mère, une compression d'honneur. Les métiers du cinéma saluent de la sorte la durée de ma carrière. Ils me distinguent en récompense des risques que j'ai pris jour après jour au grand casino des apparences. Sans doute avez-vous entendu dire qu'à l'accoutumée, cette manière d'hommage vient à l'heure où l'on jette ses derniers jetons sur le tapis vert. N'ayez pas d'inquiétude pour moi. Des jetons, j'en ai encore en réserve. Je suis dans un état d'esprit favorable à faire durer la partie le plus longtemps possible. Cette compression, mes chéris, je ne la reçois pas seulement comme un certificat d'assiduité à la table de jeu, mais surtout comme une chaleureuse incitation à doubler la mise. Dès lors, comptez sur moi pour faire sauter la banque. Je vous embrasse. Mamie, je dédie ce César au métier du cinéma.
Advertising imaginative ways. Start your free trial today. Come on in the water's lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night. Dressed up in silver and white. With colored old grey whistle test lights. Take easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. You new places keep on popping up. Since the Exodus, it's all getting gentrified. I put a taqueria on the roof. It was well reviewed. 4 stars out of 5. And that's unheard of. Starlight Express, the head of special effects in my mind's eye. Okay, cookie with the opposite sex. The things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice. I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy.
Cette émission a été préparée par Lorraine Bess et Claire Tesser, à la réalisation Hélène Bizio, à la technique Anne-Laure Cochet et à la programmation musicale Thierry Dupin.